Le fait d'appeler le 15 est sûrement une bonne stratégie quand vous avez quelques centaines de cas. Ça devient plus du tout une bonne stratégie quand on doit traiter des milliers de personnes.
L'inquiétude des généralistes face au coronavirus qui a fait un premier mort français hier. Ils craignent l'afflux de malades potentiels dans les cabinets.
L'épidémie gagne encore du terrain. 40 pays touchés sur 3 continents. De quoi paniquer. Heureusement, notre spécialiste Mélanie Gomez viendra vous rassurer. Dans la grande majorité des cas, le virus n'est pas grave.
Dans l'actualité également, le sondage exclusif BVA Orange Europe 1 sur les municipales à Strasbourg, la socialiste Catherine Trottmann en position de jouer les arbitres.
Le grand flou des tarifs SNCF dénoncé par le magazine 60 millions de consommateurs, pas facile de s'y retrouver.
Ce qui frappe, c'est les tarifs qui font le yo-yo sur un même trajet. On peut avoir des tarifs qui varient de 1 à 11.
Et puis Lyon réussit à surprendre la Juve en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Victoire 1-0 dans un stade en délire. Malgré l'inquiétude autour du coronavirus, les supporters n'ont pas été déçus du voyage.
Quelle victoire! Plus beau match de la saison, ça c'est sûr.
6h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
Avant-hier, on disait encore qu'il n'y avait plus aucun cas de coronavirus en France. Depuis, tout a changé. On a appris hier la mort d'un homme de 60 ans enseignant dans un collège de Crépy-en-Valois, dans l'Oise.
C'est le premier décès d'un Français contaminé et il n'avait pas séjourné dans une zone à risque. Une enquête est donc lancée pour tenter de comprendre ce qui s'est passé.
4 malades sont également hospitalisés, dont un dans un état grave à Amiens. Officiellement, il faut impérativement appeler le 15 si on craint d'être touché par le coronavirus. Mais les généralistes craignent de voir arriver directement tous ceux qui se croient infectés, ce qui pourrait avoir de graves conséquences. Le docteur Bertrand Legrand est médecin à Tourcoing et secrétaire général du syndicat CSMF.
Le fait d'appeler le 15 est sûrement une bonne stratégie quand vous avez quelques centaines de cas. Ça devient plus du tout une bonne stratégie quand on doit traiter des milliers de personnes. Or, clairement, maintenant, on va rentrer dans cette phase où ce sera des milliers de cas suspects pour peut-être un seul ou deux cas de coronavirus.
Est-ce que vous craignez qu'il y ait des gens qui viennent vous voir directement plutôt que d'appeler le 15?
C'est tout le fond du problème, c'est que cette stratégie est partie du principe que les patients seraient responsables. Penser ça est une utopie. C'est totalement utopique de penser que les gens vont se rester confinés. Un médecin qui recevrait un cas suspect qui serait donc passé en cas probable, donc en isolement à l'hôpital, le cabinet est censé fermer, le médecin est censé rester chez lui pendant 14 jours, et on a un suivi de tous les patients qui sont en salle d'attente. C'est impossible. Une fois que vous aurez 1000 médecins qui seront à l'arrêt, comment on va soigner les gens? On est déjà en situation tendue, on est déjà en épidémie de grippe, c'est pas possible.
Le docteur Bertrand Legrand, micro Europe 1 de Lionel Gougelot.
Coup de gueule, donc alerte pour le moins des médecins généralistes, des libéraux, en première ligne, vous l'avez entendu, disent-ils, et pas suffisamment équipés. Je reçois Jean-Paul Ortiz à 6h40, le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Plus de 80 000 personnes contaminées dans le monde, 12 morts en Italie, pays d'Europe le plus touché. La liste s'allonge chaque jour un peu plus et difficile de ne pas s'inquiéter.
Mélanie Gomez, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1 et vous nous remettez les idées en place. Le coronavirus, c'est sérieux évidemment, mais ce n'est pas grave.
D'un point de vue national, il ne faut pas encore céder à la panique. En tout cas, à ce jour, on a eu une dizaine de cas. On ne note que 2 décès en France. Imaginez quand même la grippe. Chaque année, c'est plus de 10 000 décès. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ce coronavirus à ce jour. Encore une fois, on n'est pas dans une épidémie en France. Ce qui inquiète les gens aujourd'hui, c'est que ce virus, on n'a pas de médicaments spécifiques pour le soigner. Mais il faut rappeler que dans la majorité des cas, dans plus de 90% des cas, les personnes infectées par le coronavirus guérissent spontanément. Donc, pas de quoi s'affoler encore d'un point de vue individuel médical, en tout cas.
Et Mélanie, si on se sent mal, si on tousse, c'est la catastrophe?
Alors, si aujourd'hui, vous avez des symptômes qui font penser au coronavirus, que vous toussez, que vous avez de la fièvre, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de fortes chances pour que vous ayez plutôt la grippe. On est en pleine épidémie, donc ça, il faut le rappeler. En revanche, si vous avez voyagé, évidemment, dans des zones épidémiques, comme la Chine ou les régions touchées en Italie, là, effectivement, c'est tout à fait différent. Vous appelez le 15, on fera le point avec vous, on vous fera hospitaliser si besoin. Pour les autres, vous consultez un médecin généraliste classique pour, évidemment, faire un diagnostic différentiel et éventuellement confirmer que vous avez la grippe.
Mélanie Gomez, merci Mélanie. Mélanie qu'on retrouve tous les jours sur Europe 1, vous le savez, dans 100 rendez-vous, c'est de 15h à 16h.
Et les pouvoirs publics dans tout ça, le Covid-19, ce n'est pas seulement une question sanitaire, c'est aussi une question politique. Il faut absolument faire face. Ce matin, Édouard Philippe va recevoir à Matignon les chefs de parti ainsi que les présidents de groupes parlementaires pour évoquer cette question du coronavirus. Il est impératif de soigner la communication, Adrien Beck.
informer, prévenir sans déclencher une psychose, voilà l'équation compliquée du gouvernement. En première ligne, le ministre de la Santé Olivier Véran et son point d'information quotidien, des réunions régulières avec Édouard Philippe et son gouvernement. Chaque mot, chaque image doivent être pesés. Par exemple, l'exécutif ne parle pas d'épidémie à ce stade et insiste sur les moyens mobilisés. Hôpitaux, commandes de masques, renforcement des outils de dépistage. Il faut qu'on montre que tous les préparatifs ont été faits, dit un ministre. Le sujet est sanitaire, mais le risque est aussi politique. L'opposition ne manquerait pas d'attaquer un gouvernement qui n'en ferait pas assez. Édouard Philippe a déjà envoyé une lettre à tous les maires de France. Ce matin, il reçoit l'ensemble des partis. C'est une demande, on y répond, souligne-t-on à Matignon. Une façon aussi d'impliquer l'ensemble de la classe politique dans la gestion de cette crise. Un ministre espère que l'opposition sera raisonnable. Il ne faut pas qu'on fasse les retraites bis sur le coronavirus. Le sujet est trop grave.
Et la question politique aussi hein, autour de la gestion de ce Covid-19, de ce coronavirus. 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. On a déjà beaucoup parlé de toutes les conséquences économiques hein, du virus. On ne compte plus les manifestations annulées ou écourtées. La dernière en date, le carnaval de Nice.
Et aussi la fête du citron à Menton. Aucun cas de contamination n'a été détecté dans le département des Alpes-Maritimes. Mais l'afflux de dizaines de milliers de spectateurs pouvait favoriser les risques de contamination. Impossible de prendre le risque. À Nice, le reportage de Frédéric Michel.
Mais je pense que depuis que ça se trame, ils auraient dû le prévoir avant quand même.
Déçus, ces touristes de l'Hérault se faisaient une joie d'assister à la bataille des fleurs et au corso nocturne de carnaval ce samedi. Comme 18 000 autres spectateurs, ils pourront se faire rembourser leurs billets. Marie-Lise et Louis-Paul.
On devrait la maintenir aussi. Eh bien.
On comprend qu'ils prennent des précautions. C'est ça, normal. C'est normal. Hein. Ça, c'est un risque trop important.
Ah oui, c'est trop risqué là.
Mais on est un peu déçus.
Cette annulation de dernière minute, c'est un manque à gagner évident pour les commerçants, mais la mesure est bien acceptée. Philippe Desjardins préside la fédération qui regroupe les 22 associations de commerçants de la ville de Nice.
Je préfère une sortie annulée qu'une annonce de X décès qui pénaliserait énormément les Alpes-Maritimes. De toute façon, on ressentait quand même un petit manque par le fait qu'il n'y avait plus d'Asiatiques.
Annulé préventivement le carnaval et la fête du citron, une position largement partagée dans la population. Dans un sondage réalisé ces dernières heures, 72% des personnes interrogées se prononçaient pour cette décision.
Frédéric Michel à Nice pour Europe 1 et ajoutons qu'Emmanuel Macron sera tout à l'heure à Naples pour un sommet avec l'Italie, sommet évidemment perturbé par le coronavirus.
Europe 1, il est 6h08.
Le procès Fillon a commencé pour de bon hier. L'ex-premier ministre est poursuivi pour les soupçons d'emploi fictif offert à son épouse pendant des années.
Son suppléant Marc Joulot est également poursuivi. Il risque 10 ans de prison. Première journée d'audience donc hier. Très technique, Salomé Legrand, et pourtant déjà les premières piques.
La très rébarbative étude de questions de droit pointues n'a pas empêché l'échange d'amabilité. D'un côté du prétoire, les avocats du couple Fillon accusent le parquet financier d'avoir précipité l'ouverture de l'instruction pour qu'une loi plus sévère s'applique. Un juge désigné un samedi du jamais vu, tonne-t-il. À quelques jours près, la réforme de la prescription empêchait de remonter au-delà de 12 ans. Réplique immédiate du parquet national financier, je cite, « On a été naïfs de croire que la victimisation de la défense allait cesser pour faire place au droit. » Le second procureur attaque en insistant sur la gravité du détournement de fonds publics, délit puni de la peine correctionnelle la plus lourde, 10 ans de prison. Il se permet un saut au Moyen-Âge pour rappeler que c'était alors passible de la peine de mort par pendaison. Le public frissonne d'excitation. Sur leur strapontin, les trois prévenus se redressent d'un bond.
Les municipales à présent, et comme chaque jeudi, vous le savez, Europe 1 vous dévoile un sondage exclusif en partenariat avec BVA et Orange. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la ville de Strasbourg.
Principal enseignement, Catherine Trottmann redonne des couleurs au Parti Socialiste. Elle pourrait même se retrouver en position d'arbitre au second tour. Les précisions d'Adélaïde Zulvi-Karpasik, directrice de BVA Opinion.
L'issue du premier tour reste assez incertaine. Jusqu'à présent, les enquêtes montraient que la candidate Europe Écologie Les Verts était en mesure d'arriver en tête dès le premier tour et apparaissait comme la favorite de ce scrutin. On voit bien là que l'arrivée de Catherine Trottmann est un tout petit peu préjudiciable à la liste Europe Écologie Les Verts, puisqu'on aurait deux listes qui arrivent en tête dans un mouchoir de poche. La liste LREM qui est conduite par Alain Fontanelle avec 27% des suffrages exprimés et qui devance la liste Europe Écologie des Verts conduite par Jeanne Barseguian, créditée de 25% des voix. La vraie surprise et la vraie nouveauté, c'est la possibilité a priori pour la liste PS conduite par Catherine Trottmann de se maintenir au second tour et donc de peser soit en se maintenant, soit en négociant des alliances d'un côté ou de l'autre. Mais on voit qu'en tout cas, Catherine Trottmann est en quelque sorte une faiseuse de mer et en tout état de cause que son rôle sera vraiment déterminant dans l'issue de ce scrutin.
La directrice de BVA Opinion au micro de Claudia Bertram. Prudence dans 10 départements du nord de la France ce matin, du Pas-de-Calais à la Moselle en passant par la Marne. Ils sont placés en vigilance orange, neige et verglas.
La neige qui va arriver dans la matinée, nous disait Laurent Cabrol. SNCF, tout déraille. C'est le titre sans appel du magazine 60 millions de consommateurs qui sort ce matin.
Guichet fermé, dessertes supprimées, mais surtout flou total sur la politique tarifaire. C'est un constat effectué après l'analyse de près de 3000 trajets. Aurélien Fleureau.
Ce qui frappe, c'est les tarifs qui font le yo-yo sur un même trajet. On peut avoir des tarifs qui varient de 1 à 11.
Un trajet en TGV entre Aix-en-Provence et Paris peut vous coûter le week-end entre 25 et 116 euros pour une place en seconde classe sans carte de réduction. Évidemment, plus vous réservez tôt, moins cher vous paierez. L'économie moyenne en achetant son billet 2 mois à l'avance est de 20% par rapport à un achat 15 jours avant le départ. Mais cela ne marche pas à tous les coups, a constaté Benjamin Dourier de 60 millions de consommateurs.
Sur les grands départs, effectivement, des bons plans, il n'y en a pas. On l'a vérifié, nous, en relevant les prix pour un départ le week-end de l'Ascension. On a relevé les prix dans les 24 heures qui suivaient l'ouverture des réservations. Sur les Paris-Bordeaux, tous les trains étaient au tarif maximum autorisé à la SNCF.
Et la ligne où la SNCF rentabilise le plus, c'est le Paris-Lyon. Beaucoup de demandes, peu de petits prix, sauf si vous voyagez avec Ouigo. Et puis, autre source de flou relevée par 60 millions de consommateurs, les cartes de réduction, qui ne sont pas utiles pour tous les types de trains. Sur des trajets en TER, comme sur le Paris-Cancherbourg ou Paris-Orléans, la carte de la région est souvent plus avantageuse que la carte SNCF.
Paris-Lyon. Et ça y est, on s'installe à Lyon avec du football sur fond de coronavirus. C'était hier soir au Groupama Stadium. Près de 3000 supporters italiens étaient venus soutenir la Juve qui affrontait Lyon en 8e de finale aller de Ligue des Champions.
Et ils ont été déçus, les supporters italiens. C'est l'OL qui l'a emporté 1-0. But de Toussard à la 31e minute. C'est la première fois que Lyon s'impose face à ce géant d'Europe et l'ambiance était à la hauteur de l'exploit. Cyril de la Morinerie.
Sur le terrain, les joueurs viennent saluer les supporters. En tribune, tout le monde est debout. Pierre n'en revient toujours pas. Lyon a bel et bien battu la Juve de Cristiano Ronaldo.
Quelle victoire ! Plus beau match de la saison, ça c'est sûr.
Cristiano Ronaldo, pas bon aujourd'hui.
Pas bon, comme le reste de l'équipe turinoise. Malgré sa pléiade de stars, le club italien n'a pas réussi le moindre tir cadré. Le héros du match, c'est Luca Toussard, idéalement servi à la 31e minute par Oussem Aouar.
Je vois que le ballon arrive sur mon pied gauche et j'arrive à la mettre au fond. Donc, émotion de fou, je savais qu'il y avait beaucoup de monde qui me soutenait dans la tribune. Et voilà, des frissons et après, tout qui va bien.
Et même si ce supporter y croit dur comme fer...
On va voir ce qu'il allait faire au match retour.
L'entraîneur lyonnais Rudy Garcia se montre prudent. Ce n'est que la première manche. La deuxième est prévue à Turin, dans 3 semaines. Lyon, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Et on rappelle que le maire de Lyon, Gérard Collomb, avait voulu donner l'exemple face aux critiques sur la venue des supporters italiens. Il était dans les tribunes et sans masque.
Ouais, mais j'en ai vu des masques. Hein.
Il y en avait
quand vous avez suivi le match, il y avait quelques masques hein, dans la
et
tribune.
Et puis des gens mitouflés dans leur capuche.
Ouais, aussi. Et d'ailleurs, ça fait vraiment débat que cette question des supporters italiens, parce que figurez-vous que dans le même temps, le match de rugby Irlande-Italie, qui se joue en Irlande, hein, évidemment, a été annulé dans le cadre du tournoi des Six Nations. Faut être précis sur les termes. On va reparler justement de ces débats autour de Lyon-Juve avec les supporters italiens dans le journal de 6h30 avec Pierre Herbulot. Merci Hélène Zélani. 6h14. Bon réveil à toutes et à tous.